Georges Delbrück, le club de l'harmonie. Je ne sais combien de temps dura ce sommeil, mais lorsque je me réveillais, j'eus d'abord de la peine à me rappeler où je me trouvais et ce qui m'était arrivé. Tout cela me semblait étrange. Je ressentis aussitôt une faim terrible, et je me demandais comment je ferais pour trouver à manger lorsque, sur une console, en face d'une ouverture fermée qui devait être un monte-plat, j'aperçus un plateau chargé de victuailles. La salle dans laquelle je me trouvais était maintenant éclairée d'une lumière douce qui semblait provenir de la phosphorescence des murs. Les victuailles se trouvaient sur un plateau en or, avec couteaux et fourchettes également en or. C'était splendide. Une petite flamme bleue sortait d'une pointe dans un des coins du plateau. Quand je dis victuailles, c'est une façon de parler. Il y avait sur le plateau une espèce de parfait glacé qui ressemblait à un petit amas nard d'une drôle de couleur, un mélange de vert irisé et de bleu pastel avec des taches noires. Cela sentait très bon. J'en coupai une tranche, et cela se coupait comme une poire bien mûre. Ce fruit, car c'était un fruit, était vraiment délicieux. Il fondait dans la bouche en donnant une impression de fraîcheur et de bien-être. J'avisai un grand pot en cristal coloré que je croyais contenir de l'eau, mais je m'aperçus à ma grande joie qu'il contenait un excellent champagne, dont j'avalai plusieurs verres avec une grande satisfaction. Mon repas terminé, je trouvai sur le plateau un coffret en or repoussé, contenant des cigarettes dont j'allumai une à la petite lampe bleue, et je m'étendis sur le divan dans un état de douce béatitude. En réfléchissant à ce qui m'arrivait, je me dis que décidément je n'avais pas lieu de me plaindre. J'étais prisonnier, c'est vrai, victime d'une arrestation arbitraire, mais on me traitait royalement. Je ne gémissais pas sur l'appât humide de cachot. J'étais étendu sur un bon divan, on me servait dans de la vaisselle en or, je buvais du champagne, et mon cachot, qui sentait bon, était une grande salle, tout en marbre avec des murs phosphorescents, une salle que plus je regardais, plus je trouvais splendide. J'avais affaire à des gens ayant du savoir-vivre, sans doute des gens en peignoir de bain. Je pouvais envisager l'avenir sans trop d'appréhension. J'allumai une seconde cigarette à la petite flamme bleue, et tout en la regardant, je me demandais ce que pouvait bien être cette flamme qui sortait d'une pointe. Je débarrassai le plateau de ce qui se trouvait dessus, je le retournai dans tous les sens, et je restai abasourdi. J'avais dans les mains un plateau en or repoussé, et dans le coin était une pointe d'où sortait une flamme. Mais aucun réservoir, je m'en assurais, aucun accumulateur, aucune bobine, rien. C'était incompréhensible. Et puis, je me mis à regarder ma cigarette, qui à l'examen avait l'air d'un morceau de bois poreux, et qui, comme la première, brûla sans faire de cendre. Je me demandais par hasard si je ne rêvais pas, et pour m'en assurer, je me pinçais fortement le bras. Au fond, c'était idiot, car si ce rêve, on peut très bien rêver qu'on se pince le bras, et cela ne pour rien du tout. Très intrigué, je me mis à arpenter ma prison, et à un moment donné, je passai derrière une pièce de rocher phosphorescent qui se trouvait dans le fond, lorsque tout à coup, j'aperçus une ravissante femme couchée qui versait de l'eau dans une piscine. Je me retirai vivement, car, bien que je ne sois pas généralement incommodé par le sentiment de la pudeur, je me trouvais horriblement gêné du fait que j'étais tout nu. « Madame, lui dis-je, je vous présente mes hommages. » Il m'arrive toujours des histoires de ce genre. Chaque fois que je suis impressionné, je suis accouché d'une ineptie, ça ne rate pas. J'avais autrefois un ami qui, quand on le présentait à une femme, disait toujours « Madame, je vous présente mes hommages ». Je trouvais cela tout à fait à côté de la note. Mais pourquoi ai-je dit justement cette phrase banale à la femme couchée ? Comme la femme ne répondait pas et qu'elle ne bougeait pas, je supposais qu'elle dormait peut-être, tout en versant de l'eau. Je fis alors le tour du rocher pour l'aborder du côté pied, car elle était couchée le long du rocker avec le côté tête à droite, et je trouvai là la porte d'une grotte dans le rocher. Cette grotte était un cabinet de toilette avec lavabo, etc. Il y avait aussi des ustensiles de toilette, brosse, peigne, instruments pour les ongles, plus des onguents, des pattes et des autres toilettes. Tout cela était magnifique. Je cherchais en vain un vêtement pour couvrir ma nudité, il n'y avait même pas de serviette. Tout en étudiant un prétexte pour engager la conversation avec la femme couchée, je me brossais les cheveux, faisais ma raie avec un soin tout particulier et je me lavais. L'eau, qui sentait bon, s'évaporait immédiatement, et c'est sans doute pour cela qu'il n'y avait pas de serviette. Une fois ma toilette terminée, je sortis de la grotte et cherchais à apercevoir la dame couchée, sans être vue moi-même. Elle versait toujours de l'eau, seulement cela ne ressemblait pas à de l'eau. On aurait dit plutôt des pierres précieuses liquides, et l'eau de la piscine était pareille. Cela miroitait de toutes les couleurs. J'allongeai le pied pour m'assurer de la température de l'eau. Elle était tiède. Alors, brusquement, je sautai dans la piscine, où je m'accroupis de façon à avoir de l'eau, ou plutôt des pierres précieuses jusqu'au cou. La femme était drapée dans un vêtement très élégant. Elle avait le doigt couvert de bagues et était idéalement jolie. Elle me regarda en souriant, et il me semblait qu'elle rougissait. Je lui adressais la parole, je ne sais plus exactement ce que je lui dis, mais elle ne me répondait toujours pas. Elle semblait me suivre des yeux, et par moments, son regard se voilait. Supposant qu'elle ne comprenait peut-être pas le français, et me sentant devenir un peu hystérique, je me mis à lui faire des grimaces, pensant la faire rire, mais je n'obtins aucun résultat. Peu à peu, je crus comprendre. Cette femme, car c'était bien une femme, en chair et en os, il n'y avait pas d'erreur. Cette femme versait de l'eau en dormant, et elle dormait les yeux ouverts, et en plus de cela, elle avait l'oreille dure. Oh, ce devait être une demi-mondaine amenée à mon attention par le monsieur en peignoir. Ce qui me sembla être d'une délicate attention de sa part. Il n'y avait donc pas lieu de me gêner. Par ailleurs, la déplorable habitude de n'avoir de respect pour les demi-mondaines que dans l'exercice de leurs fonctions, au fond, c'est bête. « Allons, le petit ami, réveillons-nous, lui dis-je. Faut plus dormir. Nous allons causer un peu. » Comme elle ne bougeait toujours pas, je voulus lui prendre la main. Mais la main résistait. Je lui tâtais les bras. La peau était douce, mais ce n'était pas une femme. C'était une statue tiède. Et cela, avec cela tellement joli, que j'en devins tout à fait amoureux. J'aurais d'ailleurs dû comprendre qu'une femme ne peut pas indéfiniment verser de l'eau d'une cruche, fût-elle en or ciselé, sans que cette cruche ne se vidât. Mais que d'or dans ma prison, mon Dieu, que d'or ! Oui, elle était vraiment ravissante dans cette pose nonchalante, avec son regard voilé. Et elle semblait vivre et changer de couleur. Par moments, sa peau si blanche semblait se couvrir d'un nuage rose. Cette statue dégageait positivement une effluve de tendresse. Je restai pendant fort longtemps en contemplation devant ces délicieuses créatures, tout en faisant couler de mes bras et de mes mains des gouttes d'eau qui perlaient chacune d'une couleur différente. Je voyais rouler sur ma peau des diamants, des topazes, des émeraudes, des turquoises, des saphirs, des perles nacrées, et je renonçais à chercher aucune explication, pensant que j'étais plongé dans un rêve délicieux. Je retournai ensuite dans le cabinet de toilette de la grotte, et regardant dans la glace, m'aperçus que j'avais une barbe d'au moins 2 jours. Je découvris 2 rasoirs quelque peu rouillés, et qui juraient par leur appartenance commune avec les autres ustensiles d'une richesse somptueuse qui couvrait la dressing table. Je me rasais d'une façon tout à fait réussie. J'avais la peau en bon état. Je flânais longuement et m'arrangeais aussi les ongles que mes travaux d'aviateur avaient mis dans un état déplorable. De temps en temps, je jetais un coup d'œil à la petite statue aux attaches délicates qui restait toujours aussi charmante et aussi séduisante. Et puis, je restais en contemplation devant les murs phosphorescents de ma prison. Au toucher, on aurait dit du marbre, et les phosphorescences étaient dans les nuances tendres, formant des dessins très intéressants, quoique fondus les uns dans les autres. Chose étrange, les dessins changeaient constamment et progressivement. C'était prodigieux. Finalement, après avoir mangé ce qui restait de l'ananas bleu et brun, ce qui restait de champagne, je m'endormis de nouveau sur le divan. Lorsque je me réveillais, un homme était devant moi. C'était celui qui m'avait poussé dans la voiture. « Bonjour, monsieur, me dit-il. Vous sentez-vous bien reposé ?» L'homme que j'avais devant moi était très bien. D'abord, je n'aperçus que ce que j'avais pris pour un peignoir de bain était un péplum, un vêtement drapé très élégant. Il y a des gens qui jugent le caractère d'après l'écriture, d'autres par les lignes de la main. Moi, je juge d'après la physionomie, le son de la voix, et je me trompe rarement. Je change quelquefois d'opinion après coup, mais pour m'apercevoir ensuite que la première impression était bonne. Cette fois-ci, ma première impression fut sportsman, intelligent, puissant, délicat, courageux, bon, charmant, et je vis subitement s'évanouir la rancune que je lui avais gardée au sujet de l'aventure du panier à salade. Je me sentis au contraire envahi d'une grande sympathie à son égard. C'est si rare de rencontrer des gens vraiment bien que cela fait toujours plaisir. « Je vous apporte, me dit-il, un vêtement. Cela vous gêne sans doute d'être en état de nudité. Attendez, je vais vous le rattraper. » C'était un vêtement, soie blanc laiteux, avec filigrane en or et tissé en nid d'abeille, comme l'Aitex Sandlar-Dorthing de Londres. Il m'attacha le vêtement sur l'épaule avec une superbe agrafe en diamant et émeraude que j'estimais au bambou à 40 000 francs. Je me laissais faire, j'avais renoncé à comprendre. « Je crois que nous avons à causer, n'est-ce pas » ajouta-t-il. « Ne seriez pas fâché de comprendre ce qui vous arrive ?»« Mais évidemment. » « D'abord, laissez-moi vous féliciter sur votre passage du col de Déon. » C'était téméraire, fou, mais admirablement exécuté. Nous avons cru que vous alliez vous briser sur les glaciers. Vous avez fait un bond formidable dans les airs et avez rasé la neige au du col. Franchement, vous pouviez vous donner un peu plus de marge sans déchoir. C'est toutefois à titre de bon sportsman que j'ai le plus grand plaisir à vous serrer la main. « Mais dites-moi tout de suite, comment avez-vous connu l'existence de notre club ?»« Pardon, monsieur, lui dis-je, Vous me paraissez charmant, vous m'êtes très sympathique. Seulement, je ne comprends pas un traître mot de tout ce que vous me racontez. D'abord, où suis-je? Dans la vallée d'Aoste? Comment, vous ne savez pas où vous êtes? Je ne suis pas en Italie. Mais non, vous êtes au club de l'harmonie. Oh, je vois d'ailleurs que nous n'en tirons pas avec cette façon de causer. Racontez-moi votre voyage et je vous expliquerai ensuite ce qui vous arrive ici. Je lui racontai alors brièvement comment j'avais construit en secret mon aviateur, comment j'avais parti de nuit et comment, après avoir frôlé la neige du col, j'avais atterri dans un endroit dont je ne connaissais pas la position, mais que je supposais être une vallée alpine sur le versant italien. Mon interlocuteur, visiblement ému, me serra fortement les deux mains. « Ah, me dit-il, vous ne savez pas combien vous me faites plaisir. J'avais, en vous laissant arriver ici, assumé une responsabilité très grande. Ainsi, vous m'affirmez qu'on ne connaît pas en Europe le courant zénital et que vous ne connaissiez pas vous-même l'existence du club de l'harmonie et que c'est le hasard seul qui vous a amené ici et qui vous a fait franchir le col de Déon. Je vous l'affirme en effet, mais je ne comprends toujours pas. Eh bien, mon cher monsieur, vous êtes ici au cœur de l'Afrique. Le club de l'harmonie se trouve au centre de l'Afrique. Le pays dans lequel vous vous trouvons est un plateau entouré de montagnes inaccessibles. Nous vivons ici isolés du reste du monde. Et nous ne voyons pas qu'on soupçonne notre existence, nous ne le voulons pas. À l'aide de télémicrophones à longue portée dont dispose notre bureau météorologique, nous avons entendu votre moteur environ une heure avant votre arrivée, malgré la vitesse effrayante à laquelle vous avez dû marcher. C'était moi qui étais chargé de décider de votre sort. Estimant que lorsqu'on est menacé d'un danger, il vaut mieux le connaître, j'ai suspendu l'action du voile électrique pendant votre descente, sans quoi vous seriez arrivé tout de même, mais à l'état de cadavre. J'ai lieu de me féliciter de ma décision, puisque je sais maintenant quel danger qui semblait vous menacer n'existe pas. Vous seul, parmi les civilisés, connaissez le courant zénital. Vous seul connaissez l'existence de notre pays. Et c'est la chose demeureront ignorés du reste du monde. Me demandant si je n'avais pas affaire à un joyeux mystificateur, je résolus de ne manifester aucune surprise et de poser des questions habiles. Puis-je vous demander qui vous êtes, lui dis-je. Je m'appelle Lysias. Il est inutile d'y ajouter monsieur, ce terme étant inconnu chez nous. Vous êtes déjà baptisé chez nous du nom de Martial, qui en notre langue veut dire ourson, trop aimable. Ainsi nous sommes au centre de l'Afrique et non en Italie, comme je le croyais. Parfaitement. Mais pourquoi au moment de mon atterrissage m'avez-vous poussé dans une voiture en porcelaine? Pourquoi m'avez-vous fait déshabiller? Pourquoi suis-je prisonnier? Mais vous n'êtes pas prisonnier, vous êtes en quarantaine. Cette salle n'est pas une prison, c'est une étuve à désinfection. Mais étuve à désinfection, je ne suis pas malade. Je vous donne ma parole qu'au moment de mon départ, il n'y avait à ma connaissance aucun cas de peste ou de choléra en France. Mais vous n'êtes pas malade, mais vous apportez des germes d'infection, redoutables pour nous. Et puis vous répandez une odeur nauséabonde qui soulève le cœur. Ce n'est pas étonnant, étant donné que vous et vos ancêtres, vous êtes toujours nourris de choses immondes et que vous n'avez aucune notion d'hygiène ni de bactériologie. L'odeur de votre haleine est loin d'être agréable. Cependant, je dois constater une grande amélioration depuis votre arrivée. Et j'espère, d'ici à quelque temps, vous purifier complètement et vous rendre tout au moins présentable et inoffensif grâce aux microbes que je vous fais absorber avec votre nourriture. Vous me faites manger les microbes, m'écriai-je avec terreur. Vous voulez donc m'empoisonner? Assurez-vous, je vous fais absorber de bons microbes qui vont livrer un combat terrible aux microbes funestes dont vous êtes affectés. Je vous montrerai d'ailleurs, mais plus tard, la projection d'une goutte de votre sang. Vous assisterez au combat des microbes. C'est très intéressant. Vous ignorez, je le vois, qu'avec votre façon de vous nourrir, vous donnez naissance chaque jour à un nombre incalculable de microbes nocifs. Vous m'avez parlé de voile électrique. Qu'entendez-vous par là? Je vous ai dit que le club de l'harmonie est un plateau entouré de montagnes neigeuses et inaccessibles, ne possédant qu'un col, celui de Déon. Le voile électrique est une couche d'électricité aérienne juste au-dessous du col de Déon qui couvre le pays tout entier. Et ce vide est pour nous un moyen de défense. Aucun être animé ne peut le traverser sans être foudroyé. Le voile électrique nous sert aussi à régler la température, à tamiser le soleil pendant la journée et à empêcher le rayonnement pendant la nuit, de sorte que la température est invariable le jour comme la nuit, d'un bout de l'année à l'autre. Il nous sert enfin à régler l'état hygrométrique de l'atmosphère, de sorte que nous provoquons la pluie pendant quelques heures dans la nuit et qu'il fait toujours beau pendant la journée. Mais qu'est-ce que c'est le club de l'harmonie? Pourquoi club? Oh, le nom officiel de notre pays est la République de Déon. Mais nous sommes forcés au club. Tout ce qu'il y a dans le pays appartient au club dont nous sommes tous membres. Nous vivons en harmonie, c'est pourquoi nous nous intitulons Club de l'harmonie. Et combien y a-t-il de membres dans ce club de l'harmonie? Oh, environ 60 000. Est-ce que je pourrais être admis comme membre? Mais certainement. Ah, si tout appartient au club. Par exemple, le magnifique bijou que vous m'avez donné appartient à vous ou au club? Ah, il appartient au club, ou plutôt, il appartient à personne. Mais alors, la cotisation doit être excessivement chère. Je serais très heureux de devenir membre. Seulement, ne prévoyant pas ce qui arrive, je crains de ne pas avoir apporté assez d'argent. Vous avez l'air d'être tous horriblement riches. Tout ce que je touche est en or. Vous me donnez des bijoux de 40 000 francs, comme je donnerais 2 sous à un pauvre. Je ne pourrais pas suivre votre train de vie, mes moyens ne me le permettent pas. Le regard de Lysias, que notre conversation avait l'air d'amuser, tandis qu'elle me crispait, s'éclaira d'un bon sourire et il me dit « Je suis patriarche, je vous nomme membre honoraire du club. À partir de maintenant, tout dans le pays vous appartient autant qu'à moi. » Déterminé à ne pas me laisser bluffer et à rester imperturbable, je continuai mes questions. Qu'entendez-vous par patriarche? Quel âge avez-vous? Quel âge me donneriez-vous? Oh, je ne sais trop quoi vous répondre. Vous avez le physique d'un homme de 25 ans et le regard et l'assurance d'un homme mûr. Oh, je vous donne environ 35 ans. J'en ai 83. Oh, cette fois-ci, je perdis contenance. Ou bien Lysia se mentait, ou bien c'était à n'y rien comprendre. Car voici la description de Lysias. Taille moyenne, type menu et délicat, imberbe, peau mate, douce et fraîche, cheveux courts, bruns, fins comme de la soie, abondants, ondulés, yeux bleus avec de longs cils, Mais très intéressante, main très intéressante, main d'artiste, soignée comme des mains de femme, pieds aussi soignés que les mains, voix chaude et veloutée, regard loyal et courageux, démarche souple, ondoyante, jeune, et malgré la ténuité des membres et de la tâche, on devinait des muscles en acier trempé. Je sentis toutefois que Lysias disait la vérité. Il parlait d'une façon simple et sincère. Je ne lui en voulais plus. Il m'était au contraire très sympathique. Je continuai. Et comment se fait-il que tout soit en or dans ma prison? Vous ramassez donc l'or à la pelle? Oui, vous l'avez dit, nous le ramassons à la pelle. Nous avons dans le pays des montagnes de gravier et d'or, de pépites d'or vierges, sans mélange de terre ou de rocher. Il n'y a qu'à ramasser. L'or n'a donc ici aucune valeur, dans le sens que vous attribuez à ce mot. Chez vous, l'or est le symbole de la richesse. Chez nous, l'or n'est qu'un métal utile. C'est le métal dont nous nous servons presque exclusivement. Il est malléable, oxydable, agréable à l'œil, et nous avons réussi à le tremper, de sorte que nos ressorts en os, en or trempé, sont plus durs et plus flexibles que les vôtres en acier. Cette abondance d'or est une des raisons pour lesquelles nous ne voulons pas qu'on soupçonne notre existence. Si l'on s'en doutait, on nous enverrait d'abord des missionnaires pour nous civiliser. Lysias appuya sur le mot civilisé, puis, sous prétexte de soutenir les missionnaires, les civilisés se rueraient sur notre pays pour nous massacrer et nous dévaliser. Oh, il est vrai que nous n'avons rien à craindre, outre notre voile électrique qui oppose une barrière absolument infranchissable. Nous pourrions, avec nos canons électriques, envoyer par-dessus les montagnes des ondes foudroyantes qui balayerait le désert à 50 km à la ronde. Mais ces moyens de destruction nous répugnent, et nous préférons rester ignorés. Je vis avec plaisir, continua Lysias, que vous êtes servi des rasoirs de Paul Reim, que j'ai fait venir par téléphone de musée rétrospectif des curiosités qui est à l'autre bout du pays. Oh, ne me remerciez pas, car j'ai fait cela par pur égoïsme. Toute notre philosophie est d'ailleurs basée sur l'égoïsme, le seul mobile auquel obéissent les hommes. Cela m'aurait répugné de voir une barbe en parc-épic, voilà tout. Mais puisque vous allez vivre parmi nous, je vais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous faire épiler. Les poils donnés par la nature aux animaux servent à les préserver du froid, mais ils ne servent à rien à l'homme qui se garantit par des vêtements, sinon être un foyer d'infection. Et ils rappellent d'une façon par trop désobligeante notre origine simiesque. Vous en avez jusque dans les narines, ce qui doit être fort gênant. Vous allez vous servir de pâte épilatoire? Non, les poils seront arrachés un à un, et les racines seront détruites au galvanocotère. Ne craignez rien, bon, cela ne sera pas douloureux. Je ferai passer dans cette salle une onde anesthésique, et l'opération se fera sans que vous le sachiez, mais en plusieurs fois. J'en chargerai deux jeunes déesses, Vérone et Sorante, qui l'ont déjà promis de s'occuper de vous, et qui parlent le français. Vous dites deux jeunes déesses qui parlent le français? Mais est-ce que tout le monde ne parle pas le français dans ce pays-ci? Mais non. Mais quelle est donc la langue du pays? Le carthaginois. Le carthaginois. Mais comment alors savez-vous le français? Comment je parle le français? Oh, de la façon suivante. Il y a environ 5 ans, nos électrochercheurs paraboliques nous ont fait découvrir un explorateur français, Paul Herring, qui se mourait dans le désert au pied de la montagne. C'était un naturaliste qui, abandonné par ses Noirs, était venu s'échouer là, à bout de force. Un peu par pitié et beaucoup par curiosité, nous avons organisé une expédition pour le sauver et l'amener ici. Il a vécu 3 ans parmi nous et il est mort, il y a environ 2 ans, d'une maladie d'estomac. C'est lui qui m'a appris le français, et c'est lui qui a baptisé des noms de Vérone et Sorante, les 2 jeunes déesses qui vous servirent de cicerone et qui étaient aussi ses élèves. Paul Herring était très intéressant, mais surtout tout à fait différent de vous. C'était un homme de science encore plus laid que vous, fin, railleur, sceptique, amer, et dépourvu de toute religion, ce qui le rendait très malheureux. Il n'avait d'autre idéal que la science. Or, la science est un moyen, mais ne doit pas être le but. Vous êtes donc très religieux ? Très religieux ! Seulement notre religion s'appelle la philosophie de la beauté, de l'harmonie et de l'amour. Elle est basée sur la science, et elle évolue avec la science. Et qu'avez-vous fait de mon aviateur ? Votre aviateur est en sûreté. Nous l'avons remisé dans une grotte. Après des infections, j'ai envoyé vos effets au musée, les curiosités barbares. Comment ? Au musée, les curiosités barbares ? Mon complet de chez Alexandre, ma cravate de chez Cloque et mes chaussures de chez Antoine. Ah, ah oui, parlons de vos chaussures. Elles sont horribles. Le pied ne peut pas s'étendre. Elles relèvent du bout. La semelle est trop longue. Oh, cependant, elles sont moins horribles que celles de Paul Herring, qui étaient vraiment ignobles, elles. Mais pourquoi est-ce qu'elles relèvent du bout? Cela vous paralyse les muscles du pied? Cela vous force à marcher le ventre avant en posant le talon par terre et en roulant sur un pied comme sur une boule? Je ne puis vous le dire. Je n'ai jamais pu obtenir d'un bottier qui me fasse des chaussures qui touchent la terre jusqu'au bout. Tout ce que j'ai pu obtenir, c'est qu'elles relèvent moins. À ce moment, Lysias poussa un fauteuil en bois sculpté qui était appuyé au mur, et ce fauteuil glissa sur le sol jusqu'à mon divan, mais glissa comme un traîneau sur la glace. Je fus stupéfait, car j'avais en vain essayé la veille de bouger ce fauteuil qui m'avait paru boulonné au sol. Lysias s'assit à côté de moi, et d'un air confidentiel et naïf, me dit « Paul Herring m'a raconté que les femmes chez vous portent des bas. Est-ce vrai ?»« Eh oui. » Mais lorsque je lui en ai demandé la raison, il m'a répondu que leurs jambes étaient trop laides pour qu'elles puissent les montrer. Je ne l'ai cru qu'à moitié, parce qu'il était souvent railleur et amer. Je ne répondis pas à cette question de Lysias. « Tout ce que je vois ici, lui dis-je, tout ce que je touche, tout ce que j'entends, me semble paradoxal. Les prisons sont somptueuses, les ananas sont bleus et pleins de microbes, les cigarettes ne font pas de cendres, tous les ustensiles sont en or, et les jolies femmes qui sourient en rougissant sont des statues. Ah oui, la statue vivante. Les statues vivantes versent des pierres précieuses liquides qui sentent bon. Les fauteuils scellés au sol glissent tout à coup comme des traîneaux. Les murs sont phosphorescents et changent de couleur. Les jeunes gens comme vous se trouvent être des patriarches. C'est à n'y rien comprendre, franchement. Et si j'écrivais notre conversation d'aujourd'hui, cela paraîtrait absolument idiot. Eh bien, vous l'écrirez. J'ai apporté du papier et un crayon. Les pigeons que vous avez amenés sont bien des pigeons voyageurs, n'est-ce pas? Ah oui, mais à propos, quoi sont-ils devenus? Ils sont à l'étuve de désinfection. Comment eux aussi? Mais certainement. Il y en a un qui est déjà mort, mais les deux autres sont en bonne voie. Malgré la distance énorme qui nous sépare de la France, on pourrait tenter de les lâcher, mais après les avoir soumis à un régime d'entraînement spatial et les avoir préparés par cela de la nourriture intensive, vous allez les nourrir de microbes? Non, mais de fruits chimiques. Encore un paradoxe. Je vais le noter, passez-moi le papier et le crayon. Mais ce n'est pas un crayon, dit Jalisias. C'est un bâton pointu en porcelaine artistique. Oui, il est en porcelaine chimique et produira au contact du papier des radiations bleu marine. Nous nous servons beaucoup du procédé des radiations. J'essayais le crayon. Il était moelleux et donnait des caractères larges d'un beau bleu noir. Écoutez, dit Jalisias, si vous me donnez le secret de votre crayon, je vous abandonne mon aviateur. Ce crayon suffira pour établir ma fortune. J'ai pensé, continua Lysias, que cela vous intéresserait peut-être d'écrire le récit de vos aventures et de tenter de l'envoyer en France. Nous réduirons notre manuscrit par la photographie et tirerons sur pelure avant de le confier aux pigeons voyageurs. Je lui mets toutefois une condition expresse, c'est que vous ne fourniez aucun renseignement de nature à divulguer le secret du courant zénital, que vous ne donnerez ni votre nom, ni le nom de localité d'où vous êtes parti, ni la position géographique de notre pays, position que vous ne connaissez d'ailleurs pas. Mais alors on ne me croira pas. Votre récit passera pour de la haute fantaisie, mais qu'importe. Il pourra intéresser quand même. Je ne peux pas venir tous les jours, d'abord parce que je suis très occupé à la faculté des prodiges, où j'ai voix consultante, et ensuite parce que je suis obligé de passer moi-même dans une autre étuve à désinfection en quittant celle-ci. Je reviendrai dans 2 ou 3 jours. D'ici là, vous aurez le temps d'écrire ce qui est arrivé jusqu'à présent, et je lirai votre manuscrit avant de le réduire. Il passera ainsi à la censure. Je viendrai vous voir alors tous les jours, et je vous raconterai l'histoire de votre peuple. Je vous expliquerai notre philosophie, et lorsque vous sortirez, une fois votre cure terminée, vous comprendrez que tout ce qui, autrement, vous paraîtrait invraisemblable n'est que la conséquence logique des événements. Quand vous cesserez de travailler votre manuscrit, ne pensez à rien. Laissez-vous vivre. Mangez, dormez et surtout, baignez-vous beaucoup dans l'eau luxueuse et lumineuse. C'est indispensable pour votre cure. L'eau lumineuse m'intéresse beaucoup, mais la statue qui la verse m'intéresse encore davantage. Je vous avouerai que j'en suis positivement amoureux. Oui, n'est pas mal. Surtout l'amphore en or avec dessins en relief, qui est une merveille. La statue s'appelle Shiva. Elle est l'œuvre d'un sculpteur mort il y a environ 10 siècles. Et puisque les statues sont si jolies, je suppose que les femmes dans ce pays-ci sont très bien. Certainement, elles sont très bien. Et pas trop farouches? Elles sont toutes charmantes. Oui, je sais, je veux dire pas trop austères. Enfin, vous ne comprenez pas? Si, je comprends parfaitement. Sachez que nous sommes ici au pays de l'amour. Au pays où l'on aime toujours et encore. Seulement, comme vous n'êtes qu'un civilisé, c'est-à-dire presque un barbare, il ne faut guère vous attendre qu'à des succès d'estime et de curiosité. Mais nous ferons de notre mieux pour vous rendre le plus heureux possible. D'ailleurs, vous me plaisez. Vous n'êtes pas, comme Paul Ayrin, rebelle à toute vibration artistique. Je devine que, sans que vous puissiez encore les comprendre, les mots d'harmonie et de solidarité amoureuse caressent agréablement votre oreille. Je crois que nous pourrons vous faire connaître la joie intérieure et provoquer en vous le rayonnement d'amour, quoique dans une mesure restreinte. Lysias sortit après m'avoir serré affectueusement les deux mains. Il est inutile de raconter mes impressions et mes réflexions. Pendant les 3 jours, je suis resté seul, d'autant plus que je ne savais pas m'y prendre, car j'ai jamais eu de disposition littéraire. Je parlerai seulement de l'aventure de la moustache. Lorsque je m'éveillai le lendemain matin, je me dirigeai vers le cabinet de toilette pour faire ma barbe, et tout en marchant, me passai la main sur la figure. Elle était lisse, comme si je venais de me raser. Devant le miroir, je restais stupéfait. Je n'avais plus de moustache, et cela m'allait très bien. J'étais rajeuni, hurrah ! Il faut vous dire que j'avais souvent songé à me raser complètement, comme les Américains, mais j'hésitais pour un tas de raisons. D'abord, quand on est complètement rasé, il est indispensable d'être toujours tiré à 4 épingles, sans quoi on peut être pris pour un maître d'hôtel ou pour un cabotin. Et puis, on ne sait pas d'avance si ce sera saillant. Cela dépend de la forme de la lèvre supérieure, dont on ne peut pas se rendre compte tant que la moustache est là. Si on n'est pas bien sans moustache, il faut la laisser repousser. Et alors, pendant des semaines entières, on se promène avec une brosse à dents sur la lèvre, ce qui est très laid, et parfois même très gênant. Un de mes amis s'est rasé la moustache à la suite d'un pari. Cela ne lui allait pas. Sa femme était furieuse. Des querelles ont éclaté dans ce ménage jusqu'alors à peu près uni. La vie en commun est devenue intolérable. Il a divorcé, et ne s'apporte d'ailleurs pas plus mal. Voilà, mais ceci n'a rien à voir avec mes aventures. J'étais donc épilé, et pour toujours. J'avais la peau lisse comme celle d'un nouveau-né, et cela m'allait très bien, hurrah ! Le lendemain, je n'avais plus de poils à la partie supérieure du corps. 2 jours après, je n'en avais plus aux jambes. Je n'avais plus rien de l'homme des bois. J'étais gentil comme un petit bébé.